Chapitre 4. Le milieu de la matinée était déjà là, et la réunion d'état-major n'en finissait pas. Je soupçonnais ces rencontres d'être les mêmes depuis des siècles, avec leurs interventions orales faites sur le même ton monotone, comme un fond sonore immuable, leurs odeurs de café refroidi consommées en quantité extravagante, leurs nuages épais de fumée dans l'air, leurs liasses de papier informatique, et ce vertige cortical particulier que crée l'accès fréquemment répété aux données par le moyen des implants personnels. Je suppose que la guerre était quelque chose de beaucoup plus simple que ça quand j'étais jeune. Wellington rassemblait ses hommes, ceux qu'il surnommait avec une vérité dépourvue de toute passion, l'écume de la terre. Il ne leur disait rien, et il les envoyait tranquillement au casse-pipe. Je reportais mon attention sur l'assistance. Nous étions dans une vaste salle aux murs gris agrémentée de rectangles blancs lumineux. Il y avait de la moquette grise au sol, et la table en forme de fer à cheval était d'un gris métallique, avec des disques noirs devant chaque siège et des carafes d'eau. La présidente Mayna Gladstone siégeait au sommet de la courbe, avec de part et d'autre, dans l'ordre hiérarchique, les sénateurs, les membres de son cabinet, les militaires et le reste des décideurs subalternes. Derrière eux, autour de petites tables, étaient assis leurs inévitables collaborateurs et assistants, aucun, parmi les militaires de la force, n'ayant un grade inférieur à celui de colonel. Et, encore derrière eux, sur de simples chaises à l'aspect beaucoup moins confortable, étaient les secrétaires des assistants. Je n'avais même pas une chaise. Avec quelques autres invités qui, visiblement, n'étaient pas censés participer directement au débat, je disposais d'un tabouret dans un angle de la salle, à une vingtaine de mètres de la présidente, et encore plus loin que cela de l'officier coordonnateur, un jeune colonel qui tenait un pointeur lumineux à la main et n'avait pas la moindre trace d'hésitation dans la voix. Derrière lui, il y avait un grand panneau d'affichage stratégique gris et or. Devant lui, flottant à quelques dizaines de centimètres du sol, était une omnisphère du genre de celle que l'on trouve dans n'importe quelle fosse holo. De temps à autre, le panneau se brouillait et l'affichage changeait. Occasionnellement, des holos complexes se dessinaient dans l'air. Des reproductions en miniature de tous ces diagrammes s'affichaient sur les disques de la grande table et flottaient au-dessus de certains persocs. Assis sur mon tabouret, j'observais Gladstone tout en esquissant quelques croquis. Lorsque j'ouvris les yeux ce matin-là dans mon appartement de l'aile résidentielle de la maison du gouvernement, la lumière éclatante de Tossetti pénétrait à flot dans la chambre entre les tentures couleur de pêche qui s'étaient automatiquement ouvertes à 6h30, heure prescrite par moi la veille. Durant une ou deux secondes, je me sentis désorienté, perdu, toujours à la poursuite du père Hoyt, sous l'emprise de la terreur de tomber nez à nez avec le Gritch ou avec Het Mastin. Puis, comme si une force obscure avait brusquement exaucé mon vœu de me laisser retrouver mes propres rêves, il y eut une minute de confusion totale, et je me redressai en haletant dans mon lit, jetant autour de moi des regards paniqués, m'attendant presque à voir la moquette citron et la lumière couleur de pêche se ternir comme le rêve enfiévré qu'elles étaient, ne me laissant plus que la douleur, les crachats, les hémorragies effrayantes, le sang sur les draps, la belle chambre lumineuse faisant place aux ombres du vieil appartement de la Piazza d'Ispagna, avec au premier plan le visage sensible de Joseph Severn penché en avant, penché avec sollicitude, en train de m'observer et d'attendre le moment de ma mort. Je me douchais longuement à deux reprises, d'abord à l'eau, puis au sonic. Je revêtis un complet gris posé sur le lit déjà fait, lorsque je ressortis de la salle de bain. Je partis ensuite à la recherche du patio Est où, comme l'indiquait aimablement un carton que l'on avait posé près du complet neuf, le petit déjeuner était servi à l'intention des hôtes de la maison du gouvernement. Le jus d'orange était fraîchement pressé. Le bacon était authentique et croustillant. Le journal annonçait que la présidente Gladstone s'adresserait aux Reds, via l'Assemblée de la Pangermie et les médias, à 10h30, heure standard du Reds. Toutes les pages étaient presque entièrement consacrées à la guerre. Des photos bidimes de l'armada s'étalaient en couleurs glorieuses. Le général Morpurgo, l'expression grave, avait son portrait en page 3. La légende l'appelait « le héros de la seconde rébellion Haït ». Diana Philomel me regarda d'une table voisine, où elle était assise face à son pithécanthrope de mari. Sa robe, ce matin, était plus austère, bleu marine et beaucoup moins suggestive, mais une fente sur le côté rappelait un peu le spectacle de la nuit dernière. Elle ne me quitta pas des yeux tandis qu'elle portait délicatement à sa bouche, entre deux doigts aux ongles vernissés, une fine lamelle de bacon et que Hermoun Philomel émettait un grognement satisfait en lisant quelque chose dans l'encart financier.
Le groupe migrateur extro, communément désigné sous le nom d'Essain, fut repéré pour la première fois dans le système de CAMN par un détecteur de distorsion au KIN il y a un peu plus de 300 années standard,
était en train de dire le jeune officier coordonnateur.
Dès que l'alerte fut donnée, l'unité opérationnelle numéro 42 de la force, déjà constituée en vue de l'évacuation du système d'Hyperion, se mit en mode C+, à partir de Parvati, avec comme instruction cachetée la charge d'organiser la mise en place d'un potentiel distrans capable d'assurer la liaison portale avec Hyperion. Simultanément, l'unité opérationnelle numéro 87-2 fut mise en route au départ de la zone de rassemblement de Solkov-Tikata, autour de CAM-3. Ses ordres étaient d'opérer la jonction avec la force d'évacuation du système d'Hyperion, de repérer le groupe migrateur extro, d'engager le combat avec lui et de détruire son potentiel militaire.
Des images de l'armada se formèrent sur le panneau stratégique et devant le jeune colonel. Il fit bouger son pointeur et une ligne de petits traits rubis traversa le gros hologramme pour illuminer l'un des vaisseaux 3C de la formation.
L'unité opérationnelle numéro 87-2 est placée sous le commandement de l'amiral Nashita à bord du vaisseau Hébride,
continua l'officier coordonnateur.
« Mais oui, nous savons déjà tout cela !»
grogna le général Morpurgo.
« Au fait, Yanni !»
Le jeune colonel fit une esquisse de sourire, hocha imperceptiblement la tête à l'intention de Gladstone et du général, puis reprit d'une voix un tout petit peu moins assurée.
Les messages Megatrans codés en provenance de l'UO-42 depuis les 72 dernières heures standards font état d'engagement direct entre des éléments de reconnaissance de la force d'évacuation et des formations d'avant-garde du groupe migrateur extro.
Les Saints,
interrompit Leigh Hunt.
C'est cela,
fit Yanni. Il se tourna vers le panneau et les 5 mètres de verre des polis s'animèrent. Pour moi, ce n'était qu'un fouillis de symboles ésotériques, de vecteurs colorés, de codes militaires et d'acronymes de la force qui n'évoquaient absolument rien de cohérent. Peut-être les gros bonnets et les politiciens de haut rang qui étaient dans la salle n'y trouvaient-ils pas plus de signification que moi. Personne ne le fit savoir, en tout cas. J'entamai un nouveau croquis de Gladstone, avec le profil de bulldog de Morpurgo à l'arrière-plan.
Quoique les premiers rapports aient fait état de quelque chose comme 4000 sillages laissés par leurs unités de propulsion,
continua le colonel appelé Yanni, j'aurais été curieux de savoir si c'était son nom de famille ou son prénom.
Ce chiffre me semble quelque peu trompeur. Comme vous le savez, les essaims extra peuvent être constitués par des unités de propulsion indépendantes, dont le nombre peut aller jusqu'à 10 000 et plus, c'est vrai, mais qui sont en grande majorité minuscules et non armées, ou bien sans grande valeur militaire. Les signatures Megatrans, hyperfréquences ou en provenance d'autres sources diverses permettent de penser que...
Excusez-moi,
interrompit Mayna Gladstone, dont la voix aguerrie et puissante formait un contraste frappant avec le flot sirupeux de paroles qui sortaient de la bouche du jeune officier.
Pourriez-vous nous dire combien de vaisseaux extra exactement ont une valeur militaire significative ?
Fit le colonel en jetant un coup d'œil dans la direction de ses supérieurs. Le général Morpurgo se racla la gorge.
À notre avis, 600-700 au grand maximum,
fit-il.
Rien qui puisse nous causer du souci.
La présidente haussa un sourcil.
Et quelle est l'importance de nos propres forces ?
Morpurgo fit un signe de tête au jeune colonel pour qu'il se mette au repos et répondit.
L'unité opérationnelle 42 comprend une 60aine de bâtiments. L'unité opérationnelle UO-42 est une force d'évacuation ?
Le général Morpurgo acquiesça d'un signe de tête et je crus lire un rien de condescendance dans son sourire quand il répliqua.
Oui, madame. L'unité opérationnelle 87-2, notre flotte de combat, qui s'est distranslatée dans le système il y a un peu moins d'une heure, va pouvoir 60 vaisseaux.
C'est tout ce que nous avions à opposer à 600 ou 700 bâtiments de guerre. Vous avez jugé cela suffisant ?
Morpurgo jeta un coup d'œil à l'un des autres officiers assis près de lui, comme pour lui demander d'avoir de la patience avec la présidente.
« Amplement suffisant, madame, » répondit-il. « Comprenez bien que 600 unités de propulsion Hawking, cela peut paraître énorme,
Mais en réalité, ce n'est rien lorsque ces unités sont affectées à la propulsion de monoplaces, d'appareils de reconnaissance, ou bien à celle de ces petits engins d'assaut à cinq places qu'ils appellent des lanciers. L'UO-42 était constitué de près de 12 douzaines de vaisseaux de spin, y compris les gros porteurs Olympus Shadow et Neptune Station, capables de lancer chacun plus de 100 chasseurs et lance-missiles automatiques.
Morpurgo fourra la main dans sa poche, en sortit une fumette recombe de la taille d'un cigare, sembla se rappeler soudain que Gladstone en désapprouvait l'usage, et la remit dans la poche de sa vareuse.
« Dès que l'UO-87-2 se sera entièrement déployé, reprit-il avec un froncement de sourcils, nous disposerons d'une puissance de feu largement suffisante pour faire face à une douzaine d'essaims. »
Les sourcils toujours froncés, il fit signe à Yanni de continuer. Le colonel s'éclaircit la voie et orienta son pointeur en direction du panneau.
« Comme vous le voyez, dit-il, l'UO-42 n'a eu aucun mal à s'assurer le contrôle du volume d'espace nécessaire à la mise en place des équipes de construction du modulateur Distrans. Cette mise en place a débuté il y a 6 semaines en temps rétien et la construction a été achevée hier à 16h24 standard. Les premières tentatives de harcèlement extra ont été repoussées sans aucune victime du côté de l'UO-42. Au cours de ces dernières 48 heures, une importante bataille s'est livrée entre des éléments d'avant-garde de l'UO et le gros des forces extra. Le point focal de ces engagements se situe à peu près ici.
Il orienta de nouveau son pointeur et une partie du panneau fut illuminée en bleu.
29 degrés au-dessus du plan de l'elliptique, 30 UA du soleil d'Hyperion, 0,35 UA de la limite supposée du nuage Dwart du système.
Nos pertes ? Demanda Leg Hunt.
Tout à fait acceptable compte tenu de la durée de l'engagement,
fit le jeune colonel, qui ne s'était probablement jamais trouvé à moins d'une année-lumière d'une ligne de feu ennemie, et dont les cheveux blonds, soigneusement peignés sur le côté, luisaient sous l'éclat intense des spots qui éclairaient le panneau.
26 chasseurs rapides détruits ou portés disparus,
reprit-il d'une voix monocorde.
12 lance-missiles automatiques perdus, ainsi que 3 vaisseaux torches, le ravitailleur Asquith Pride et le croiseur Draconi 3.
« Combien de vies humaines ?» demanda Mayna Gladstone d'une voix très calme. Yanni jeta un rapide coup d'œil à Morpurgo, mais répondit lui-même à la question.
« Environ 2300, dit-il. « Mais des opérations de sauvetage sont en cours et nous avons bon espoir de retrouver des survivants du Draconi. »
Lissant la manche immaculée de sa veste d'uniforme, il poursuivit.
Il convient de mettre ce nombre en balance avec la destruction confirmée de 150 vaisseaux de guerre extra au moins. Nos propres raids à l'intérieur du groupe Migre de l'Essaim ont eu pour résultat supplémentaire la mise hors de combat de 30 à 60 unités, parmi lesquelles on compte plusieurs agricomètes, des vaisseaux minéraliers et au moins un bâtiment de commandement.
Mayna Gladstone frotta les uns contre les autres ses doigts noueux.
Dans le tableau des pertes, je veux parler des nôtres. « Avez-vous inclus l'équipage et les passagers du vaisseau-arbre Yggdrasil que nous avions affrété pour les opérations d'évacuation ?»«
Non, madame !»
s'empressa de répliquer Yanni.
« Il y avait bien une attaque extra en cours à ce moment-là, mais nos analyses indiquent que l'Yggdrasil n'a pas été détruit par un feu ennemi. »
De nouveau, Gladstone haussa un sourcil.
« De quelle manière, alors ?»«
Sabotage, selon nos informations présentes. »
fit le colonel en appelant sur le panneau un nouveau diagramme du système d'Hyperion.
Le général Morpurgo consulta son persoc en disant
« Venez-en aux défenses terrestres, Yanni. La présidente a une allocution à prononcer dans 30 minutes exactement. »
J'achevais le dessin de Gladstone et de Morpurgo, m'étirais, puis regardais autour de moi à la recherche d'un nouveau sujet. Leg Hunt représentait un véritable défi avec ses traits neutres, émaciés, presque insaisissable. Lorsque je relevai les yeux vers le panneau, un globe holo d'Hyperion cessa de tourner et éclata en toute une série de projections à plat. Oblique équidistante orthogonale, en canevas de Bonn, orthographique, en rosace, à la Vandergritten, de Gore, homolosine interrompue de Good, gnomonique, sinusoïdale, azimutale équidistante, polyconique, à hypercorrection de Kuwatsi, eschérisée par ordinateur, de Brismeister, de Buckminster, cylindrique de Miller, multicolligraphié, puis en repros satellite standard avant de se fondre en une unique carte d'Hyperion de type Robinson Baird standard. Je souris. c'était la chose la plus marrante qui s'était passée depuis le début de la réunion. Plusieurs collaborateurs de Gladstone s'agitaient nerveusement. Ils voulaient rester au moins 10 minutes avec elle avant la diffusion en direct de son allocution.
« Comme vous le savez déjà, déclara le colonel, Hyperion correspond à 98,9% à la norme de l'ancienne Terre sur l'échelle de Turon-Lomier qui,
pour l'amour du ciel, grommela Morpurgo, venez-en à la disposition des troupes et qu'on en finisse.
Oui, mon général,
fit Yanni. Il déglutit puis leva son pointeur. Sa voix n'était plus assurée du tout quand il reprit
« Comme vous le... c'est-à-dire... »
Il indiqua le continent nord, isolé comme un dessin maladroit de la tête et de l'encolure d'un cheval, qui se terminait en ligne brisée, à l'endroit où le poitrail et les muscles du dos de l'animal auraient dû commencer.
« Voici Écus. Ce n'est pas sa dénomination officielle, mais tout le monde le désigne sous ce nom depuis... Appelons-le Écus. » Ce chapelet de petites îles orientées sud, sud-est, s'appelle le chat des neuf queues. Il s'agit en réalité d'un archipel comprenant plus d'une centaine... Quoi qu'il en soit, le deuxième continent important de la planète est Aquila. Vous reconnaissez peut-être la forme d'un aigle de l'ancienne Terre, avec le bec, ici, sur la côte nord-ouest, et les serres bien visibles là, au sud-ouest. On voit aussi une aile au moins dressée jusqu'à la côte septentrionale. Ce secteur est appelé le plateau du Pignon. Il est presque inaccessible à cause des forêts des flammes. Vous distinguez ici et là, au sud-ouest, les principales plantations de fibroplastes.
La disposition des troupes,
grogna Morpurgo. Je commençais un croquis de Yanni. Je m'aperçus qu'il est impossible de rendre l'éclat de la transpiration avec une pointe de graphite.
Oui, mon général. Le troisième continent est Ursus. Il a un peu la forme d'un ours, mais nos forces ne l'occupent pas car il s'agit d'une région antarctique à peu près inhabitable. Cependant, les forces territoriales d'Hyperion y maintiennent une station d'écoute.
Yanni sembla se rendre compte qu'il bredouillait. Il redressa la tête, s'essuya la lèvre supérieure du dos de la main et poursuivit d'une voix plus ferme
« Ici, là et là se trouvent les principales installations au sol de la force. »
Tandis que son pointeur illuminait des zones situées à proximité de Kitz, la capitale, et sur l'encolure d'Equus, il poursuivit.
« Les unités spatiales de la force se sont assurées la maîtrise du port spatial de la capitale et des installations spatiales secondaires situées ici et ici. »
Il désigna les villes d'Endymion et de Port-Romance, toutes les deux sur le continent d'Aquila.
Les unités terrestres de la force ont implanté des installations défensives à 7 endroits.
2 douzaines de voyants rouges s'allumèrent. Ils couvraient la majeure partie de l'encolure et de la crinière d'Écuus, mais également quelques secteurs du bec d'Aquila et des environs de Port-Romance.
Ces unités comprennent des bataillons de marine, ainsi que des détachements de forces de défense terrestre, solaire et sol-espace. Le haut commandement souhaite qu'il n'y ait, contrairement à Brescia, aucune bataille au sol. Mais s'il lance une invasion, nous serons prêts à les recevoir.
Mayna Gladstone consulta son Persoc. Il restait 17 minutes avant l'émission.
« Parlez-nous du dispositif d'évacuation, » demanda-t-elle.
L'assurance toute récente de Yanni tomba en poussière. Il se tourna d'un air désemparé vers ses officiers supérieurs.
« Aucune évacuation n'est prévue, »
déclara l'amiral Singh.
« C'était une ruse, un leurre destiné aux extros. »
Gladstone tapota l'un contre l'autre les bouts de ses 5 doigts écartés.
« Il y a plusieurs millions de civils sur Hyperion, amiral. »«
Je le sais, »
fit Singh,
« et nous les protégerons. Mais même l'évacuation des 60 000 citoyens de l'hégémonie est tout à fait hors de question. Ce serait le chaos si nous permettions aux 3 millions de personnes qui peuplent cette planète de se répandre dans leur ETS. D'ailleurs, pour des raisons techniques de sécurité, ce n'est pas vraiment possible. »
« À cause du Gritch ?»
demanda Leg Hunt.
« Pour des raisons de sécurité, »
répéta le général Morpurgo. Il se leva et prit le pointeur des mains de Yanni. Le jeune officier demeura indécis quelques secondes, ne trouvant pas d'endroit où se mettre, assis ou debout. Il gagna alors le fond de la salle, non loin de l'endroit où je me trouvais, et adopta la position de repos, le petit doigt de la main droite sur la couture du pantalon. Le regard fixé sur un point proche du plafond, où il voyait peut-être déjà la fin de sa carrière militaire.
L'unité opérationnelle 87-2 a pris position à l'intérieur du système,
déclara Morpurgo.
Les extros se sont repliés au centre de leur essaim, à une soixantaine du Hadyperion. En tout état de cause, nous contrôlons la situation dans le système. Nous contrôlons Hyperion. Nous nous attendons à une contre-offensive, mais nous sommes en mesure de la contenir. En tout état de cause, je le répète, Hyperion fait maintenant partie du Retz. Avez-vous des questions ?
Il n'y en eut pas. Gladstone sortit rapidement avec Leg Hunt, une meute de sénateurs et ses collaborateurs immédiats. Les galonnés se dispersèrent pour participer à des conciliabules, apparemment dans l'ordre dicté par la hiérarchie. Les secrétaires se dispersèrent. Les rares journalistes admis dans la salle coururent à leurs imageurs qui attendaient dehors avec les techniciens. Le jeune colonel Yanni demeurait le petit doigt sur la couture du pantalon, le regard dans le vague, le visage blême. Je restai là quelque temps à contempler le panneau représentant Hyperion. La ressemblance du continent Equus avec un cheval était accentuée à cette distance. De l'endroit où j'étais assis, je distinguais tout juste les montagnes de la chaîne bridée et la couleur orangée du plateau désertique situé sous l'œil du cheval. Il n'y avait aucune marque de position défensive de la force au nord-est des montagnes, aucun symbole à l'exception d'une petite lumière rouge qui devait être la cité des poètes. Les tombeaux du temps n'étaient pas indiqués, comme s'ils n'avaient aucune signification militaire, comme s'ils n'avaient aucun rôle à jouer dans les opérations en cours. Mais je savais, moi, à quoi m'en tenir là-dessus. Et j'avais dans l'idée que la guerre tout entière, les mouvements de milliers de personnes, le sort de millions ou peut-être de milliards d'humains, dépendaient des actions de 6 individus qui se trouvaient actuellement sur le territoire orangé dépourvu de toute marque. Je fermais mon carnet d'esquisses, rangeais mes crayons dans mes poches, cherchais des yeux la sortie, en trouvais une, et quittais rapidement la salle. Leg Hunt me croisa dans l'un des longs couloirs qui menaient à l'entrée principale.
« Vous sortez ?»
Je pris une grande inspiration.
« C'est interdit ?»
Il sourit, si toutefois il était permis d'appeler ce léger soulèvement des coins de ses fines lèvres un sourire.
« Bien sûr que non, H. Severne. Mais la présidente m'a prié de vous dire qu'elle souhaitait avoir un nouvel entretien avec vous cet après-midi. »«
À quelle heure ?» Il haussa les épaules.
« Quand vous voudrez, dès qu'elle aura fini son discours. »
Je hochai lentement la tête. Des millions, littéralement, de demandeurs d'emploi, de représentants de groupes de pression, de biographes en puissance, d'hommes d'affaires, d'admirateurs ou d'assassins potentiels, aurait donné n'importe quoi ou presque pour avoir une minute d'entretien avec la personne la plus éminente de l'hégémonie, pour passer quelques secondes en tête à tête avec la présidente Gladstone. Et moi, je pouvais la voir quand je voudrais. Qui a dit que l'univers était censé ? Frôlant Leg Hunt au passage, je gagnais la sortie. Par tradition, la maison du gouvernement n'avait pas de porte d'istrance dans ses murs. Il fallait marcher un peu pour franchir les contrôles de la sécurité et traverser le jardin jusqu'au bâtiment blanc sans étage qui servait de quartier général et de terminex à la presse. Les médiatiques étaient groupés autour de la fosse centrale de visionnement où la voix et le visage familier de Llewellyn Drake, le porte-parole de l'Assemblée de la Pangermie, fournissaient à l'assistance des explications circonstanciées sur le discours de la présidente Gladstone qu'il déclarait être d'une importance vitale pour l'hégémonie. Je fis un signe de tête dans sa direction, découvris une porte d'istrance libre, insérai ma plaque universelle et sortis à la recherche d'un bar tranquille. Le quartier marchand était, une fois que l'on se trouvait à l'intérieur, le seul endroit du Retz où l'on pouvait se distransporter gratuitement. Chaque monde du Retz avait réservé au moins l'une de ses plus belles artères urbaines, une vingtaine sur TC carré, aux achats, aux distractions, aux restaurants de luxe et aux bars. Surtout aux bars. Tout comme le fleuve Tétis, le quartier marchand sinuait à travers des portails d'istrance de dimension militaire qui faisaient aisément 200 mètres de haut. Compte tenu de l'effet d'enroulement, on avait l'impression de se trouver sur une artère de longueur infinie, un tore de délices matérielles qui continuait sur 100 km. On pouvait se tenir, comme moi ce matin-là, sous le soleil éclatant de Tosseti, et contempler le quartier marchand en enfilade jusqu'à l'allée des plaisirs de Denebdrey la nuit avec tous ses néons et ses holos. On apercevait même une partie de l'avenue principale de l'Usus, que l'on savait se prolonger par les boutiques de luxe ombragées du Bosquet de Dieu, avec son esplanade en mosaïque et ses ascenseurs conduisant à la cime de l'arbre, le restaurant le plus cher de tout le Retz. Je n'avais rien à faire de tout cela. Je voulais juste trouver un petit bar sympa. Les bars de TC Carré étaient trop fréquentés par les bureaucrates, les médiatiques et les hommes d'affaires du coin. Je pris donc une navette et descendis dans l'artère principale de Soldrakoni-Septem, dont la gravité décourageait beaucoup de gens. Elle me décourageait un peu aussi, mais j'étais sûr au moins de trouver moins de monde et uniquement des gens qui étaient venus là pour boire un verre. Je jetai mon dévolu sur un établissement situé au niveau du sol. Il était à moitié caché par les piliers de soutènement et les glissières d'évacuation des principaux treillis commerciaux, et il faisait très sombre à l'intérieur. Les murs étaient sombres, les boiseries étaient sombres, et même les clients avaient la peau aussi foncée que la mienne était pâle. C'était l'endroit idéal pour boire un coup, et je ne m'en privais pas. Je commençais par un double scotch, et je continuais méthodiquement dans cette voie. Même dans un endroit pareil, je ne pouvais pas me débarrasser complètement de Gladstone. À l'extrémité opposée de la salle, un écran plat montrait le visage de la présidente sur le fond bleu et or qu'elle utilisait toujours pour ses allocutions télévisées. Plusieurs consommateurs s'étaient groupés pour la regarder. J'entendis quelques bribes de son discours.
« Pour assurer la sécurité des citoyens de l'hégémonie et ne pouvons laisser menacer l'intégrité du Retz et des Mondaliers. J'ai donc donné mon accord à une riposte militaire massive contre
« Baissez-moi ce foutu truc !»
Je fus étonné de me rendre compte que c'était moi qui étais en train de hurler ainsi. Les consommateurs me jetèrent des regards noirs par-dessus leur épaule, mais ils baissèrent le son. Je suivis quelques instants les mouvements des lèvres de Gladstone, puis je fis signe au barman de me servir un autre double scotch. Un peu plus tard, plusieurs heures peut-être, levant le nez de mon verre, je m'aperçus que quelqu'un était assis en face de moi dans le compartiment obscur. Il me fallut quelque temps pour reconnaître cette personne en l'absence d'une lumière suffisante. Un instant, mon cœur battit plus fort et je pensais « Fanny ». Mais clignant des yeux une seconde fois, je murmurai « Lady Philomel ». Elle portait la même robe bleu marine qu'au petit déjeuner, mais le décolleté semblait plus échancré. Son visage et ses épaules semblaient briller d'une lueur propre dans la semi-obscurité.
« H. Severn, »
murmura-t-elle dans un souffle à peine audible.
« Je suis venue vous faire tenir votre promesse. »
« Ma promesse ?» Je fis signe au barman de venir, mais il n'eut aucune réaction. Fronçant les sourcils, je me tournai vers Lady Philomel.
« Quelle promesse ?»«
De faire mon portrait, naturellement. » « Auriez-vous oublié votre engagement d'hier soir ?»
Je fis claquer mes doigts, mais le barman, insolent, ne daignait toujours pas regarder de mon côté.
« Je vous ai déjà dessiné, » dis-je à Lady Philomel.
« C'est exact, mais pas entièrement. »
Je soupirai et vidai le reste de mon scotch.
« J'ai encore besoin de boire, » murmurai-je.
« C'est ce que je vois, »
fit-elle en souriant. J'allais me lever pour passer ma commande au barman, mais je me ravisais et me laissais aller en arrière contre le bois patiné de la banquette.
« Armageddon !»
m'exclamai-je en regardant avec fixité la femme assise en face de moi, les paupières plissées pour que son image ne soit plus trouble.
« Ils sont en train de jouer à Armageddon. Vous connaissez ce mot, chère madame ?»«
Je ne crois pas qu'ils accepteront de vous servir encore de l'alcool. Pourquoi ne pas venir chez moi ?» Vous pourriez boire tout en dessinant mon portrait. »
Je plissai de nouveau les paupières d'un air rusé. J'avais peut-être un petit coup de trop dans le nez, mais cela n'altérait nullement mes facultés mentales.
« Votre mari, »
fis-je d'une voix pâteuse. Diana Philomel sourit une nouvelle fois d'un air radieux.
« Il va passer plusieurs jours à la maison du gouvernement, »
me dit-elle d'une voix encore plus basse.
Il ne peut se permettre de s'éloigner du centre du pouvoir en un moment pareil. Venez, ma voiture nous attend dehors.
Je n'ai pas le souvenir d'avoir payé, mais je suppose que, si ce n'est pas moi, C'est Lady Philomel qui l'a fait. Je ne me souviens pas non plus d'avoir été aidé à sortir et à monter dans sa voiture, mais c'est peut-être son chauffeur qui l'a fait. J'ai vaguement en mémoire un homme vêtu d'une tunique et d'un pantalon gris contre lequel je me suis appuyé un instant. Le VEM avait un toit en forme de bulle, polarisé de l'extérieur, mais parfaitement transparent de l'intérieur. Affalé sur les coussins moelleux, je comptais une, puis deux portes d'Istrance, et nous nous éloignâmes du quartier marchand, gagnant de l'altitude, au-dessus des champs bleutés sous un ciel jaune. De riches demeures, faites d'un bois qui ressemblait à de l'ébène, se dressaient au sommet des collines entourées de champs de pavots et de lacs d'airain. Le vecteur Renaissance ? C'était trop difficile à dire pour le moment. Je laissais aller ma tête contre la verrière et décidais de tout oublier un instant ou deux. Il fallait que je sois en forme pour faire le portrait de Lady Philomel. Et tout le reste. Pendant ce temps, le paysage continuait de défiler au-dessous de nous.